إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous continuons aujourd'hui l'étude du poème Al-Lamiyya, duquel nous tirons la croyance des quatre grands imams de l'islam, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad, rahimahumullahu ta'ala. Nous avons vu dans le cours précédent la croyance des quatre imams au sujet du Coran. Et nous allons voir aujourd'hui la croyance authentique au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, a donc dit « وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ » Et je dis « Allah, جَلَّ جَلَالُهُ » a dit « Et le guide élu, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit » Donc il dit qu'il rapporte les paroles d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il dit « Et je n'interprète pas ». L'auteur, rahimahullahu ta'ala, explique ici qu'au sujet du Coran, ou de manière plus générale, au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont dit. C'est-à-dire qu'il croit en tout ce qui se trouve dans le Coran et la Sunna authentique concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il affirme ce qui se trouve dans ces textes d'une manière qui sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa majesté. Et ce, sans interprétation, c'est-à-dire sans donner à ces textes un autre sens que leur sens premier, comme le font les gens de l'innovation et de l'égarement, qui interprète ces textes de façon contraire à ce qui a été voulu par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et également de façon contraire aux explications des compagnons et de leurs disciples et des grands imams de l'islam. Il dit ensuite, rahimahullah, وَجَمِيعُ آيَاتِ الصِّفَاتِ أُمِرُّهَا حَقًّا كَمَا نَقَلَ الطِّرَازُ الْأَوَّلُ Et tous les versets des attributs, je les transmets, exactement comme les premières générations l'ont rapporté. C'est-à-dire que tous les versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les hadiths de la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, concernant les noms et les attributs d'Allah, il est obligatoire d'y croire selon le vrai sens des mots, sans altération, ni négation, et sans assimilation, c'est-à-dire sans comparer ces attributs aux attributs des créatures, ni description du comment, ni en cherchant à décrire le comment de ces attributs. Telle est la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et parmi eux, les quatre grands imams de l'islam, comme on le verra par la suite, incha'Allah ta'ala, à travers leurs paroles. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَأَرُدُّ عُهْدَتَهَا إِلَى نُقَّالِهَا » وَأَصُونُهَا عَنْ كُلِّ مَا يُتَخَيَّلُ J'en remets à leur rapporteur la responsabilité et je les préserve de tout ce qu'on pourrait s'imaginer. Ici, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous indique que l'explication du sens des textes liés aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne relève pas de notre responsabilité. Mais il dit que cette responsabilité, elle est remise à ceux qui ont rapporté ces textes parmi les musulmans des premières générations. Et nous, nous ne faisons que transmettre ces textes. Il dit donc que ce n'est pas sa responsabilité, mais qu'il ne fait que transmettre ce qui a été rapporté des premières générations de musulmans, à commencer par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, puis leurs disciples et les grands imams de l'islam des premiers siècles. On ne fait donc que transmettre et croire en ce qu'ils ont rapporté au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, et je les préserve de tout ce qu'on pourrait s'imaginer. C'est-à-dire que je préserve ces textes de toute altération ou toute interprétation erronée. mais également de toute assimilation ou comparaison. Car certaines personnes, à la lecture de ces textes, pourraient assimiler certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aux attributs des créatures ou les comparer. Et ceci est contraire à la croyance authentique. On doit donc préserver les textes de cela. Et également les préserve de toute description du comment. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de semblable. Il n'est donc pas possible de décrire, ni de s'imaginer le comment de ses attributs. Donc, nous nous contentons de les affirmer, tels qu'ils sont mentionnés dans les textes, d'une manière qui sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa majesté. Telle était la croyance de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Ils se conformaient donc à trois choses importantes à ce sujet. Premièrement, l'affirmation de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même, comme nom et attribut, et ce, dans son noble livre, dans le Coran. Et l'affirmation de tout ce qu'a affirmé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour son Seigneur, comme nom et attribut, et ce, dans sa sunna authentique. La deuxième chose, c'est le fait de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute ressemblance à ses créatures, dans ses noms et ses attributs. Nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit, mais sa vue est différente de la vue de ses créatures. Nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend, mais son ouïe est différente de l'ouïe de ses créatures. Nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, deux mains, mais ses attributs sont différents des attributs de ses créatures. Nous affirmons donc pour lui ses attributs d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Et nous le purifions de toute ressemblance à ses créatures. Et la troisième chose, c'est de ne pas chercher à connaître le comment de ses attributs. Car comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés de cela. Et les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, n'ont pas interrogé à ce sujet. Car ils ont compris les textes selon leur sens apparent. Et s'il y avait un bien à questionner à ce sujet, alors les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, nous auraient devancés en cela. Donc il n'est pas légiféré pour nous de chercher à connaître le comment de ses attributs. Mais ce qui nous incombe, c'est seulement d'y croire, de les affirmer, et de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute ressemblance à ses créatures, dans ses noms et ses attributs, en les affirmant d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Et ces trois points sont déduits de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 11 de Surat al-Shura. Et ce verset est une base essentielle au sujet de la croyance, aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans celui-ci, « Laysa ka mithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. » Il n'y a rien qui est semblable à lui. Il n'y a rien qui est semblable à Allah. Et il est celui qui entend et qui voit. Il n'y a rien qui est semblable à lui, et il est celui qui entend et qui voit. Dans la première partie de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté ceux qui pourraient être amenés à assimiler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aux attributs de ses créatures. Il n'y a rien qui est semblable à lui. Tu ne peux donc pas comparer ses attributs aux attributs de ses créatures. Et tu ne peux pas les imaginer non plus, car rien n'est semblable à lui. Il est au-dessus de ce que nos raisons peuvent s'imaginer. Et dans la deuxième partie du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté les négateurs, ceux qui renient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a dit « Wa huwa as-sami'u al-basir » et il est as-sami', celui qui entend, et il est al-basir, celui qui voit. Il a donc affirmé pour lui-même les attributs de l'ouïe et de la vue. On voit donc à travers ce verset qu'il nous incombe d'affirmer ces attributs pour Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté, tout en ayant conscience que ces attributs ne sont pas semblables aux attributs de ses créatures, car laïsa kamithlihi shay, rien n'est semblable à lui. Et celui qui interprète les attributs, ou alors qui dit que ces mots sont des termes dont la signification est inconcevable, et qui prétend qu'il ne sait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont voulu par ces termes, comme on peut l'entendre de certaines personnes jusqu'à aujourd'hui, qui disent « Allah a affirmé qu'il a un visage, mais je ne sais pas ce qu'il a voulu par le visage. Allah a affirmé qu'il a deux mains, mais je ne sais pas ce qu'il a voulu par les deux mains. Je ne peux pas concevoir le sens de ces termes. » Encore ceux qui disent, nous lisons ces termes comme des mots n'ayant aucune signification, wal'iyadhu billah. Alors il n'y a pas de doute que ces gens font ainsi une erreur évidente s'opposant à la croyance authentique. Car les versets au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des versets évidents, sans équivoque, dans une langue arabe explicite, et ils indiquent les plus nobles et les plus majestueux des sens. Nous croyons donc que rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il entend tout et qu'il voit tout. Et nous ne renions pas ce par quoi il s'est décrit subhanahu wa ta'ala. Et nous ne détournons pas ces paroles de leur sens. Et nous n'altérons pas et ne profanons pas les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. À titre d'exemple, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a affirmé dans son noble livre et par lesquels il s'est lui-même décrit, il y a Al-Istiwa. Il a dit dans Surat Al-A'raf au verset 54 « Inna Rabbakum Allah » الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi sur le trône. Sur le trône, c'est-à-dire au-dessus du trône. Et il a dit dans la sourate Ar-Ra'd, au verset 2, الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. Allah est celui qui a élevé les cieux sans pilier visible, puis il s'est établi sur le trône. Il s'est établi au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Et il a dit dans le verset 5 de la sourate Taha, الرحمن على العرش استوى. Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. Et il a dit dans la sourate Al-Hadid, au verset 4, « هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. » C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est établi au-dessus du trône. On voit donc dans ces versets, ainsi que dans d'autres versets dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement informé qu'il est élevé au-dessus de son trône. Il nous incombe donc de croire en cela sans altérer le sens, sans le renier, sans assimiler cela aux attributs des créatures et sans chercher à en décrire le comment. L'imam Malik rahimahullah ta'ala fut interrogé au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. On lui demanda comment s'est-il établi. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a alors baissé sa tête. Il se mit à transpirer. Les gens attendaient donc ce qui allait sortir de sa bouche. Puis il leva sa tête vers cet homme et lui dit « Al-Istiwa n'est pas inconnu. » C'est-à-dire que le sens d'Al-Istiwa est connu dans la langue arabe. « Le comment est inconcevable. » Il n'est pas possible pour nous de nous imaginer ou de décrire le comment. « La foi en celui-ci est obligatoire. » Il est obligatoire de croire en cela. « Et interroger à son sujet est une innovation. » Puis il lui dit, rahimahullah ta'ala, « Je pense que tu es un homme mauvais. » Et il ordonna de le faire sortir. On voit donc à travers cette réponse de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, la croyance correcte à avoir au sujet des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cette parole que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, elle peut être prononcée au sujet de l'ensemble des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme la descente, la main, le visage et tous les autres attributs parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons dire, la descente n'est pas inconnue, le comment est inconcevable, la foi en celle-ci est obligatoire et interroger à son sujet est une innovation. Le visage n'est pas inconnu, le comment est inconcevable, la foi en celui-ci est obligatoire et interroger à son sujet est une innovation. Les mains ne sont pas inconnues, le comment est inconcevable, la foi en celle-ci est obligatoire, et interroger à leur sujet est une innovation, et ainsi de suite. Avec l'ensemble des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les attributs qui nous sont rapportés dans le livre et la sunna, nous nous devons de les affirmer de cette manière. Le sens ne nous est pas inconnu, mais leur comment est inconcevable. Toutefois, nous nous devons d'y croire, car la foi en ces attributs est obligatoire, et interroger au sujet du comment est une innovation. Et ceci est valable pour l'ensemble des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés dans le Coran est la sunna authentique. Notre croyance à ce sujet consiste à les accepter sans les rejeter, sans les interpréter à la manière des contradicteurs, sans les assimiler à la manière de ceux qui disent qu'ils sont semblables aux attributs des créatures. Nous n'ajoutons rien à ce qui est mentionné dans les textes et nous n'en diminuons rien. Nous affirmons plutôt les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'Allah les a affirmés et nous les expliquons comme les ont expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, puis leurs disciples, puis les imams de l'islam parmi les pieux prédécesseurs rahimahumullahu ta'ala, connus pour leur religiosité et leur honnêteté. Nous nous réunissons sur ce quoi ils furent unanimes et nous nous abstenons sur ce quoi ils se sont abstenus. Nous acceptons les informations mentionnées dans le Coran et la Sunna authentique selon leur sens apparent, tout en croyant en leur signification et en ce qu'ils indiquent d'une manière qui sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa majesté. Telle est la croyance correcte au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah ta'ala dit ensuite: قُبْحًا لِمَن نَبَذَ الْقُرَانَ وَرَاءَهُ وَإِذَا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ الْأَخْطَلُ. Que soit tant les dit celui qui laisse le Coran derrière lui et qui argumente en citant ce que Al-Akhtal a dit. Ici l'auteur rahimahullah ta'ala blâme ceux qui délaissent les preuves claires et sans équivoque du Coran et de la Sunna au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui prennent pour argument les paroles des gens du faux comme Al-Akhtal qui était un poète chrétien. Certains parmi les gens de l'innovation ont pris comme argument certains vers de poésie attribués à ce poète pour altérer le sens de certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la parole ou l'istiwa. Ils ont donc délaissé les textes clairs et sans équivoque du Coran et de la Sunna, et ils ont délaissé les paroles des grands imams de l'islam pour la parole de ce poète mécréant, wal'iyadu billah. Et il en est de même concernant tous ceux qui altèrent les sens de certains attributs en se basant sur la parole d'hommes déviants parmi les gens de l'innovation et de l'égarement, et délaissant ainsi les textes clairs du Coran et de la Sunna. Donc comme on a dit, la base à laquelle on doit se référer à ce sujet, ce sont les textes. Les textes du Coran et de la Sunna. Et au sujet de la croyance, il n'est pas permis de se référer aux opinions et aux avis des hommes. Mais la croyance n'est puisée que des textes du Coran et de la Sunna authentiques. C'est donc pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, les a blâmés pour cela. Et qu'il a dit que soit tant l'édit celui qui laisse le Coran derrière lui. C'est-à-dire qu'Allah l'enlédisse en raison de cet acte ignoble qu'il a fait en s'appuyant sur la parole d'un homme qui de plus est un homme mécréant et délaissant les textes clairs et sans équivoque du Coran et de la Sunna. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit: وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ حَقًّا رَبَّهُمْ وَإِلَى السَّمَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُوا. Et leur Seigneur, les croyants le verront vraiment et vers le ciel il descend sans que l'on connaisse le comment. L'auteur, rahimahullah ta'ala, affirme ici de manière plus détaillée d'autres fondements importants de la croyance des gens de la Sunna, qui sont premièrement que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection, et deuxièmement qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend vers le ciel sans qu'on connaisse le comment. Concernant la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, au verset 22 et 23 de Surat al-Qiyamah, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Ce jour-là, au jour de la résurrection, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur, qui regarderont leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a donc clairement affirmé ici que les croyants regarderont leur Seigneur. Et les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala rapportent d'après Jarir radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous verrez certes votre Seigneur comme vous voyez le soleil à mi-journée et comme vous voyez la lune lorsqu'elle est pleine, lorsque le ciel est dégagé. Ce hadith est donc une preuve explicite que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et cette vision fait partie des plus grands bienfaits dont jouiront les croyants, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous en priver. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce qui est lié à l'attribut de la descente, qui est prouvé dans la sunna authentique. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Il dit alors « Qui m'invoque ?» afin que je l'exauce, qui me sollicite, afin que je lui donne, qui implore mon pardon, afin que je lui pardonne, et ce, jusqu'au lever de l'aube. » On voit donc très clairement à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Et cette descente, comme nous avons dit, nous devons l'affirmer telle qu'elle est venue dans les textes. Et nous disons comme a dit l'imam Malik rahimahullahu ta'ala au sujet d'Al-Istiwa, la descente n'est pas inconnue. Le comment est inconcevable, la foi en celle-ci est obligatoire, et interroger à son sujet est une innovation. Et il n'est pas permis d'interpréter la descente comme étant la descente de la puissance, ou la descente de la miséricorde, ou la descente de l'ange, comme l'ont mentionné certains parmi ceux qui ont altéré le sens de ce hadith authentique et explicite. En effet, l'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte de manière très claire d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah descend au ciel le plus proche. » Allah descend au ciel le plus proche. Il n'a pas dit la miséricorde d'Allah, ou la puissance d'Allah, ou l'ange. Mais il a dit « Allah descend au ciel le plus proche. » Et dans un autre hadith, rapporté par l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque passe la moitié de la nuit ou le tiers de la nuit, Allah descend vers le ciel le plus proche et dit « Je n'interroge personne à propos de mes serviteurs en dehors de moi, qui implore mon pardon afin que je lui pardonne, qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me sollicite afin que je lui donne, et ce, jusqu'au lever de l'aube. » On voit donc très clairement dans ces hadiths que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. Et ces hadiths nous prouvent l'importance pour le croyant de profiter de ce moment, de profiter de ces dernières heures de la nuit, durant lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus proche et prononce ces paroles. Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me sollicite afin que je lui donne? Et ce jusqu'au lever de l'aube. C'est donc un moment très propice pour le croyant afin de multiplier les invocations et l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en résumé, la voix des gens de la sunnah au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala consiste à affirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même, ainsi qu'à affirmer à son sujet ce qu'a affirmé pour lui son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans altération, sans négation, sans assimilation et sans description du comment. Il est obligatoire pour le musulman d'adopter cette voie et de prendre garde aux voies innovées et déviantes parmi les voies des différentes sectes qui se sont égarées à ce sujet et dont on parlera de manière plus développée lors de l'étude de livres plus détaillé à ce sujet. Telle est donc la croyance des gens de la sunna et qui est la croyance des quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, rahimahumullah ta'ala. Et comme pour les cours précédents, nous allons citer quelques-unes de leurs paroles à ce sujet. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, a dit « Allah ne peut être décrit par les attributs des créatures. Sa colère et son agrément sont deux de ses attributs que nous affirmons sans description du comment. Telle est la parole des gens de la sunna et du groupe. Il se met en colère et agrée, et on ne dit pas que sa colère est sa sanction et que son agrément est sa rétribution. » En effet, certaines personnes parmi les gens de l'innovation, ils interprètent les attributs. Ils disent ce qui est visé par la colère, c'est la sanction. Et ce qui est visé par l'agrément, c'est la rétribution, la récompense. Donc l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, nous dit ici, on ne dit pas sa colère et sa sanction et son agrément et sa rétribution. Bien sûr, de sa colère découle sa sanction et de son agrément découle sa rétribution. Mais la colère et l'agrément sont deux des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, rahimahullah, nous le décrivons comme il s'est décrit lui-même. Il est al-ahad, al-samad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Nul n'est semblable à lui. Il est vivant, capable, il entend. Il voit, il sait. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains, et elle n'est pas comme les mains de ses créatures. et son visage n'est pas comme les visages de ses créatures. Il dit aussi, rahimahullah, toujours Abu Hanifa, il n'appartient à personne de décrire Allah d'une quelconque chose. Allah ne peut être décrit que par ce quoi il s'est lui-même décrit. Et nous ne parlons pas à son sujet de par notre opinion. Et lorsque l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, a été interrogé au sujet de la descente divine, il a dit, rahimahullah, il descend sans que l'on connaisse le comment. Il descend. Quant au comment, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous l'a pas décrit. Il n'est pas légiféré pour nous de nous interroger à ce sujet. Il dit aussi, rahimahullah, il ne ressemble à rien parmi ses créatures. Et il dit aussi, ses attributs sont différents des attributs de ses créatures. Il sait, mais son savoir n'est pas comme notre savoir. Il est capable, mais sa capacité n'est pas comme notre capacité. Il voit, mais sa vue n'est pas comme notre vue. Il entend, mais son ouïe n'est pas comme notre ouïe. Il parle, mais sa parole n'est pas comme notre parole. Il dit aussi, rahimahullah ta'ala, celui qui décrit Allah, d'une manière par laquelle on pourrait décrire l'homme, a certes mécru. C'est-à-dire qu'il compare les attributs d'Allah aux attributs de ses créatures. Il dit aussi, celui qui dit, je ne sais pas si mon Seigneur est au-dessus des cieux ou sur terre, il a alors certes mécru. Et de la même manière, celui qui dit qu'il est au-dessus du trône, mais qu'il ne sait pas si le trône est au-dessus des cieux ou sur terre, celui-ci également a mécru, car il a démenti ainsi les textes clairs et explicites du Coran et de la Sunna authentique. Concernant l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, on a vu le récit au sujet de cet homme qui l'a interrogé au sujet d'Al-Istiwa. Et Al-Walid ibn Muslim, rahimahullah ta'ala, a dit, j'ai interrogé Malik, ainsi que Thawri, Al-Awza'i, Al-Layth ibn Sa'd, donc qui sont d'autres grands imams parmi les imams de l'islam, au sujet des informations, au sujet des attributs. Et ils ont tous répondu, transmettez-les comme elles sont venues. Transmettez-les comme elles sont venues, comme on l'a expliqué. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a été interrogé au sujet de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Est-ce qu'Allah sera vu au jour de la résurrection? Il répondit, na'am, oui. Puis il mentionna la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-qiyama lorsqu'il dit وَجُوهٌ يَوْمَهِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. En ce jour, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Puis il a dit, rahimahullah, et il a dit au sujet d'autres gens, c'est-à-dire Allah a dit au sujet d'autres personnes, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. Qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. On voit donc, dans ces différents versets, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection et que d'autres, un voile les empêchera de le voir, c'est-à-dire les mécréants. Concernant l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il a écrit dans son livre Ar-Risala, louange à Allah, qui est comme il s'est décrit lui-même, et au-dessus de ce par quoi peuvent le décrire ses créatures. Et il a dit aussi, rahimahullah ta'ala, nous affirmons ces attributs qui sont venus dans le Coran, ainsi que dans la Sunnah, et nous renions l'assimilation, comme il l'a lui-même renié, lorsqu'il a dit, Laysa kamithlihi shay, rien n'est semblable à lui. Et Ar-Rabi ibn Sulayman, rahimahullah ta'ala, a dit, j'ai entendu Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dire au sujet de la parole d'Allah, Kalla, innahum ar-rabbihim yawma idhil la mahjuboun. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a donc dit à ce sujet, il nous a informé également qu'il y aura des gens qui n'auront pas de voile les empêchant de le voir et qui le regarderont et qui n'auront pas de mal à le voir. Enfin, concernant l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il est rapporté de lui qu'il a dit « Décrivez Allah par ce quoi il s'est lui-même décrit et infirmez à son sujet ce qu'il a lui-même infirmé à son sujet. » Et il a dit aussi, rahimahullah ta'ala, « Celui qui prétend qu'Allah ne sera pas vu dans l'au-delà est un mécréant qui a démenti le Coran. » Voyez donc à travers ces quelques citations la croyance de ces quatre grands imams au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une croyance authentique conforme à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna, et qui est une croyance qui s'oppose à la croyance de nombre de ceux qui prétendent s'affilier à ces imams aujourd'hui. On entend beaucoup de personnes, par exemple, qui disent suivre l'imam Abu Hanifa, mais au sujet de la croyance, ils suivent Al-Maturidi. Ils ont donc une croyance différente de la croyance de l'imam Abu Hanifa. On entend aussi beaucoup de gens prétendre suivre l'imam Malik rahimahullah ta'ala, mais au sujet de la croyance, ils suivent la croyance d'Asha'ira, et ainsi de suite. Ils se sont donc fanatisés pour ces imams en ce qui concerne les questions de jurisprudence, qui sont des questions au sujet desquelles la divergence peut être admise, car elles peuvent souvent être liées à l'effort de réflexion et d'interprétation. Et ils ont délaissé la croyance authentique de ces imams, qui est une croyance conforme au texte du Coran et de la Sunna, et qui n'est autre que la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Voyez donc que ces quatre imams étaient tous unanimes au sujet de cette croyance et qu'ils n'ont pas divergé. Et que c'est en unissant les musulmans sur cette croyance que nous pourrons unir la communauté bi'idhnillahi ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, quelques points au sujet de la croyance authentique concernant certaines choses et certains événements liés à l'au-delà. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.